Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Donde, bibliste, content d'être avec vous pour tenter de redécouvrir la Bible justement à partir de ses récits les plus insolites. Lors du dernier épisode, on a parlé du grand roi David. On l'a vu danser d'une façon un peu exhibitionniste. On a aussi regardé tout ce qu'il a dû faire pour obtenir la main de Michal, la fille du roi. Avez-vous remarqué dans ce récit, si vous vous en rappelez, qu'on disait que Michal aimait David? Mais on ne sait pas si la relation était mutuelle parce qu'on précise nulle part que David aimait Michal. Aujourd'hui, on va tenter d'explorer une autre relation de David. Une relation où, là on est sûr, il y a de l'amour, on en parle. Mais c'est une relation un peu particulière parce que c'est celle qu'il a avec Jonathan, le fils du roi Saül, qui est donc aussi le frère de la femme de David, Michal. Vous verrez que cette relation est très forte, même que plusieurs y voient une relation homosexuelle. Est-ce que David et Jonathan étaient un couple gay? Avec cette question, vous avez sans doute compris qu'aujourd'hui, on parle de Bible et d'homosexualité. Pour rendre notre émission un peu plus interactive, on commence toujours par un temps pour vos réactions, commentaires, vos questions. J'ai reçu un commentaire d'Yvon Forgue, qui est ancien directeur de SOCABI, la Société catholique de la Bible. Il m'écrivait à propos de notre émission, mais aussi surtout du livre qui est à la base de cette série d'émissions-là. Il écrit dans un communiqué du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, et je vous le cite. « Je suis en train de lire « Mais d'où vient la femme de Caïn » de Sébastien Donde chez Novalis et d'écouter ses émissions à Radio Ville-Marie. C'est fascinant. En analysant des récits insolites de la Bible, M. Donde nous initie à lire la Bible en mettant en relief les différents éléments à considérer pour mieux comprendre les contextes dans lesquels ces récits ont été écrits et donc comment ils peuvent encore nourrir notre réflexion, malgré parfois ce qu'on peut à première vue considérer comme insolite, inexact, bizarre ou voire même indécent ou cruel. En plus d'offrir des pistes fascinantes pour s'y retrouver, la lecture de ce livre reste ludique et accessible. Enfin, l'auteur est non seulement bien connu du réseau biblique, mais aussi des plus respectés. Donc, malgré l'audace qu'il a à aborder de tels sujets, on peut être certain de la pertinence et du sérieux de son contenu. Bien, merci beaucoup. Je dois dire que j'ai connu Yvon Forgue en travaillant ensemble chez SOCABI et ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires positifs comme ceux-là. N'hésitez pas à nous contacter, nous écrire pour nous faire part de vos découvertes ou même si au contraire vous n'êtes pas d'accord avec notre interprétation, ça peut arriver, écrivez-nous. La façon la plus facile de le faire, c'est auditoire@radiovm.com. Dans quelques instants, on parle de Bible et d'homosexualité en explorant la relation entre David et Jonathan. Un jour, un de mes amis homosexuels m'a parlé de son groupe de gays chrétiens qui s'appelle David et Jonathan. Alors, en discutant avec lui, vu que je suis bibliste, j'ai voulu savoir un petit peu plus sur la question. David et Jonathan, c'est bien le David et le Jonathan de la Bible? Il dit oui. Et selon lui et son groupe, David et Jonathan étaient un couple gay dans la Bible. Pourtant, moi qui connaissais un peu la Bible, dans le livre du Lévitique au chapitre 18, on interdit ce genre de relation-là. Alors, c'est assez curieux pour un roi. Qu'en est-il réellement? On va regarder ça. On va regarder les quelques textes de la Bible pour essayer de mieux comprendre la relation qui existait entre David et Jonathan. Cette histoire est rapportée dans les deux livres de Samuel, puis c'est à noter que ça se situe tout de suite après le mariage de David et Michal. Alors donc, David est marié à Michal et on va regarder la relation qu'il a avec son beau-frère parce qu'il est marié à la sœur de Jonathan. Jonathan est donc le fils du roi Saül et il va entrer en contact avec David après le fameux combat avec le géant Goliath. David va gagner contre Goliath. Et à ce moment-là, la Bible précise que David avait de beaux yeux et une bonne apparence. 1 Samuel 26, 12. Encore jeune, il va être amené à la cour et il va être élevé auprès de Saül. Or, Jonathan, le fils aîné de Saül, c'est alors qu'il va tomber sous le charme de David. On va écouter ce récit-là de leur première rencontre et c'est à ce moment-là que David va être invité à venir vivre avec eux. C'est 1 Samuel, chapitre 18, les versets 1 à 4.
Or, dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et l'aima comme lui-même. Ce jour-là, Saül retint David et ne le laissa pas retourner chez son père. Alors, Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David, ainsi que ses habits, et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon.
Donc on voit qu'ils font alliance, qu'ils s'aiment, puis tellement que Jonathan vient à donner ses propres vêtements à David. La popularité de David avec le temps va finir par provoquer la colère et la jalousie de Saül, qui va essayer de le faire tuer à plusieurs reprises. Mis au courant d'une de ces tentatives-là, Jonathan va avertir David, son ami, et lui recommander de se cacher. Parce que, bon, ça le dit plusieurs fois, Jonathan, fils de Saül, aimait beaucoup David. David est forcé de fuir devant Saül pour protéger sa vie. À un moment, lorsqu'il se retrouve seul, David va dire à Jonathan, « Ton père sait très bien que je suis en faveur auprès de toi. » Alors Jonathan lui dit, « Ce que tu désires, je le ferai pour toi. » Ils développent ensemble un plan et Jonathan va faire prêter un serment à David dans son amitié pour lui parce qu'il l'aimait comme lui-même. C'est ça que précise le livre de Samuel. Jonathan aimait David comme lui-même. David accepte alors de se cacher jusqu'à temps que Jonathan puisse affronter son père et s'assurer que David puisse revenir au palais en toute sécurité. Alors, au cours d'un repas, alors que Jonathan prenait le parti de David, Saül, le père, va laisser éclater sa fureur et va dire « Fils d'un dévoyé, » il parle à Jonathan, « je sais bien que tu prends le parti pour David, le fils de Jessé, à ta honte et à la honte du sexe de ta mère. » C'est 1 Samuel 20, 30. Saül est vraiment contre cette relation qui se développe entre son fils Jonathan et David. Suite à ça, Jonathan est si en peine qu'il en perd l'appétit. Il quitte le repas. Le lendemain, il va trouver David dans sa cachette pour lui faire part de la situation. Il est clair que Saül veut tuer David. Il vaut mieux que David quitte la cour du roi. Écoutons la suite. Vous allez voir que le texte précise qu'ils s'embrassent et pleurent ensemble. C'est le premier livre de Samuel, chapitre 20, les versets 40 à 42.
David se leva du côté du midi. Il se jeta la face contre terre et se prosterna trois fois. Puis ils s'embrassèrent et pleurèrent ensemble jusqu'à ce que David eût pris le dessus. Jonathan dit à David, « Va tranquille, puisque nous avons l'un et l'autre prêté ce serment au nom du Seigneur. Que le Seigneur soit entre toi et moi, entre ta descendance et ma descendance, à jamais. »
Suite à ça, David quitte la région, tandis que Jonathan rentre chez son père. Saül continue de pourchasser David, il y a vraiment une querelle entre eux, une rivalité, mais David finit par échapper constamment. Finalement, le roi Saül, à la fin de toutes ces aventures-là, va finir par mourir. Il se tue pour échapper aux Philistins. Et ses trois fils, dont Jonathan, sont tués dans la même bataille à Gilboa. Quand David va apprendre la mort de Jonathan, il va pleurer et laisser monter une super belle complainte qu'on trouve au deuxième livre de Samuel. C'est au début de ce deuxième livre, chapitre 1, verset 26. Il va dire, je le cite, « Que de peine j'ai pour toi, Jonathan, mon frère. Je t'aimais tant. Ton amitié était pour moi une merveille, plus belle que l'amour des femmes. » Deuxième livre de Samuel, chapitre 1, verset 26. Avec ces histoires, on peut comprendre qu'un groupe de chrétiens, aujourd'hui, comme je vous en parlais au début, homosexuel, puisse s'inspirer de ces textes-là. Les livres de Samuel racontent bien que David et Jonathan s'aimaient, mais est-ce qu'on peut parler réellement d'une relation homosexuelle? Bon, sur cette question, les biblistes sont partagés. Je vais vous présenter le point de vue de deux biblistes. Le premier, c'est un professeur suisse qui se nomme Thomas Römer. Lui va dire que l'homosexualité de cour, comme dans les cours royales, est attestée dans la Bible. Elle correspond à un fait de civilisation dans les cours royales de l'époque de l'Antiquité. Il signale, par exemple, que dans le récit de l'introduction de David à la cour de Saül, qu'on a lu tout à l'heure, certaines expressions sont celles de l'introduction de la fiancée chez son mari. Il va souligner aussi que dans les pleurs de David sur la mort de Jonathan, le mot utilisé pour dire son amour, c'est le même mot qu'on retrouve dans le Cantique des Cantiques pour décrire la relation entre un amant et son amante. Finalement, en s'inspirant d'autres textes juifs, Römer repère dans le récit de la relation entre David et Jonathan des termes et des métaphores de l'érotisme. Alors c'est clair pour ce professeur-là, ce bibliste-là, que oui, il y a une homosexualité entre David et Jonathan. D'un autre côté, il y a d'autres biblistes qui vont dire le contraire. Par exemple, je suis tombé sur un livre écrit par un pasteur qui se nomme Innocent Ibanza. Son livre, c'est « Clarification sur l'homosexualité dans la Bible ». Pour lui, donner un sens homosexuel au passage qui concerne David et Jonathan, c'est faire violence au texte. Selon lui, rien ne permet de conclure à une relation érotique, pas même le fait que Jonathan embrasse et aime David. Bon, je dis qu'on doit rester avec la question. On ne peut pas conclure que ce récit biblique-là présente une relation érotique et homosexuelle. Par contre, c'est clair qu'on est en présence de deux jeunes hommes qui s'aiment profondément, qui ont été éduqués en partie ensemble, qui partagent une cause commune, puis ils s'aiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment, comme chrétien, est-ce qu'on doit parler de l'homosexualité aujourd'hui? Bien, c'est la réflexion que je vous propose après quelques instants musicaux. Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible avec Sébastien Daune. Aujourd'hui, on a suivi la relation entre David et Jonathan. On a discuté pour savoir s'il s'agissait réellement d'un couple gay ou non. Maintenant, on va revenir aujourd'hui, là, en 2010. On va parler, maintenant en 2011, c'est vrai, le temps avance. On va parler d'homosexualité et de la foi chrétienne dans notre monde d'aujourd'hui. Pour ma part, je sens que la question des relations homosexuelles reste encore taboue dans plusieurs milieux religieux. D'ailleurs, lorsque j'ai mentionné le sujet de cette émission à quelques personnes avant d'entrer en studio, ceux-ci me répondaient de façon bizarre, me regardaient en souriant, en se demandant comment j'allais faire pour aborder cette fameuse question assez épineuse. Mais, vous savez, certaines églises manifestent plus d'ouverture que d'autres. Par exemple, il y a l'Église unie, mais il y a aussi l'Église anglicane. Et chez l'Église anglicane, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat actuel qui est très, très important. D'un côté, aux États-Unis et au Canada, il y a une très grande ouverture. Même qu'aux États-Unis, ils vont aller jusqu'à ordonner comme évêques des hommes ouvertement homosexuels qui vivent avec leurs conjoints. Par ailleurs, à l'opposé, en Afrique, d'autres églises toujours anglicanes vont condamner sévèrement l'homosexualité. Certains vont jusqu'à parler d'un schisme possible qui pourrait arriver dans cette église à cause de cette question. Regardons donc dans la Bible les autres passages qui parlent de l'homosexualité. Alors, plus probablement que vous avez en tête que oui, il y a des textes bibliques qui condamnent l'homosexualité. Et c'est vrai, il y en a. On va les regarder. D'abord, il y en a deux dans le livre du Lévitique, chapitre 18 et chapitre 20. Dans le Nouveau Testament, c'est plutôt la lettre de Paul aux Romains qu'on va retenir, où la proscription est assez claire. Il n'y a rien dans les Évangiles. Mais ça, c'est quelque chose en soi, le fait que Jésus n'en parle pas. On va y revenir. Commençons donc d'abord avec le livre du Lévitique. Le livre du Lévitique va être très clair, va dire que c'est une abomination, qu'il ne faut absolument pas faire ça. Puis même, chapitre 20, ils vont recommander de mettre à mort tous ceux qui pratiquent l'homosexualité. On s'entend que ça va être difficile d'interpréter de façon littérale ce passage-là aujourd'hui. Je nous vois mal aller mettre à mort tous les homosexuels aujourd'hui. On s'entend pour dire que ça n'a pas de sens. La lettre aux Romains, on voit que oui, Paul condamne l'homosexualité, mais il le fait dans un passage où il veut montrer que tout le monde a besoin d'être sauvé. Il affirme au lecteur que tous, sans exception, ont commis des injustices, des infidélités et qui vont être jugés par Dieu. Paul écrit au chapitre 2 « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ils sont tous dévoyés, ensemble pervertis. » Il ne parle pas des homosexuels, il parle de tout le monde là, ici. Hein. « Pas un qui fasse le bien, même pas un seul. Voilà pourquoi personne ne sera justifié par lui-même, par ses œuvres. » Puis Paul révèle que Dieu sauve de façon gratuite, par son amour. C'est par la foi de Jésus-Christ, par sa grâce, que nous sommes rendus justes. Ça, c'est un petit résumé des chapitres 2 et 3 de la lettre aux Romains. On voit que tout le monde est condamné, pas juste les homosexuels, et que tout le monde est sauvé aussi, gratuitement. Et apparemment, ça doit inclure les homosexuels dont Paul parlait. Donc, qui sommes-nous pour envoyer en enfer du monde si Paul nous dit que tous nous péchons et que par la foi, nous sommes tous sauvés? Est-ce qu'on pense que notre jugement est celui de Dieu? Je sais pas pour vous, mais moi, je veux pas prendre la place de Dieu. Il pardonne et jugera comme il l'entend, mais j'ai aucune idée de savoir comment il va le faire. Je termine avec la situation de Paul, qui vient du chapitre 2, versets 1 et 4, où justement il va nous parler de la question du jugement. Il dit « Tu es inexcusable, toi, qui que tu sois, qui juge, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant toi qui juges. Toi qui juges, penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? Méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité? » Le passage est assez clair. Le jugement, ce n'est pas pour nous. C'est à Dieu de le faire, puis peut-être qu'il va nous surprendre avec son pardon et son amour. De plus, notre interprétation de ces textes bibliques doit prendre en compte les connaissances actuelles sur l'homosexualité. Les médecins et les psychologues disent que c'est plus vu comme un désordre ou même comme un choix, mais bien comme un état de fait, une donnée de la réalité psychosexuelle d'un être humain. Puis notre interprétation doit aussi prendre en compte les principes d'amour, d'inclusion qui sont constamment énoncés par Jésus dans les Évangiles. Jésus n'a jamais pris position sur la question de l'homosexualité. Par ailleurs, on peut peut-être s'inspirer d'un récit qui nous est transmis dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, où on le voit venir en aide à une personne mise à mort pour son comportement sexuel. Je vous invite à aller voir ça, le fameux récit de la femme adultère, où on voit Jésus qui résiste au jugement et qui va aider cette femme-là. C'est facile d'affirmer avec le catéchisme de l'Église catholique que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés et que les homosexuels sont appelés à vivre la chasteté. Mais moi, je vous mets au défi d'accompagner sans jugement des personnes homosexuelles qui veulent vivre en même temps une sexualité épanouissante et une foi chrétienne active, malgré l'exclusion dont elles sont encore objets dans bien des milieux. C'est déjà la fin de cette émission sur une question qui, j'avoue, n'a pas été très simple. J'espère que ça vous a donné au moins la matière à réflexion. Comme à l'habitude, je vous suggère de vous procurer le livre intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn, les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Médiapôle. On y retrouve une bonne partie des réflexions qu'on aborde dans cette série d'émissions. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Entre autres, vous pouvez me rejoindre à auditoire@radiovm.com. Saviez-vous qu'il y avait des prostituées sacrées, hommes et femmes, au temple de Jérusalem? Mais la prochaine fois, on regarde ça et on va explorer, du même coup, la naissance, la genèse du monothéisme en Israël. Comment Israël est arrivé à trouver un seul Dieu? Merci à Andréane Laferrière pour ses lectures bibliques. Merci également à Alain Primo qui est à la technique. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt. Thank you.
Thank you.